Dieu a donné la nature, et nous sommes dans la nature. Nous sommes dans la nature. Pourquoi est-ce que je traite de la nature? C'est parce que je vous ai parlé de l'obéissance à Dieu. Mais il y a l'obéissance à des principes naturels que Dieu a donnés. Et c'est déjà une base. C'est déjà une base qu'il ne faut pas nier. Parce qu'il y a des chrétiens qui se fichent du tiers et du quart au niveau de l'écologie, au niveau de la nature, au niveau de leur santé, ils font n'importe quoi. Ils pensent que simplement prier et aller au culte, c'est suffisant. Mais non, le regard qu'on pose sur la nature, l'attitude qu'on a vis-à-vis de la nature, sont essentiels. Dieu aussi, regarde, la façon dont nous considérons le trésor qu'il nous a prêté. Pas donné, prêté. Donc dans Genèse, pour commencer, nous allons aller dans la Genèse et regardons bien au chapitre 1, verset 26, le premier livre de la Bible. Je ne suis pas vraiment écologiste au sens politique, hein, je vous le dis. J'ai voté une fois ou deux écologique, je ne suis pas, parce que je ne pense pas que c'est tout à fait logique. C'est pas vraiment logique comme Dieu le voudrait. Mais dans Genèse chapitre 1, verset 26, Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Sachons d'abord que Dieu a fait l'homme saint, à son image. Donc avec le comportement et le même Esprit Saint, le même moteur divin que Jésus-Christ, son Fils. Et l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc en présence de Jésus-Christ, l'homme ne pouvait pas dominer pour écraser, tuer, etc. Assassiner la terre, et il ne mangeait même pas les animaux, il ne les tuait pas. Alors Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc le même jour, l'homme et la femme sont créés. Et égaux. Égaux en Christ. Dieu les bénit. Donc quand Dieu bénit, c'est-à-dire il exerce sa parole créatrice sur l'homme et la femme. Et le livre des Proverbes dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Donc c'est une parole créatrice et donatrice de la paix, donatrice de la plénitude. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans Éphésiens, qui a été perdu à cause du péché dans Daniel, mais la plénitude était là avant. De toute façon, l'humanité, les cieux et la terre nouvelles retourneront vers cette plénitude. Nous aurons un Dieu qui est riche, un Dieu qui est grand et puissant. Et il est évident que le péché a un règne limité. Satan a une puissance limitée. Lui donnant pas plus qu'il n'a, que Dieu ne lui autorise. La puissance de Dieu est immense et la plénitude qui attend ce monde, qui sera recréé, parce que l'homme va finir par le tout détruire, eh bien, recréé, il sera dans la plénitude, celle-là, celle qui était au départ. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, surtout animal qui se meut sur la terre. Sachons bien que énormément de reproches sont faits au christianisme pour ces versets. Parce que la chrétienté occidentale et nord-américaine ont développé un système industriel qui fait un grand tort à la terre. Ce système industriel qui est polluant, qui est dominateur, est critiqué par beaucoup d'écologistes et beaucoup de gens se tournent vers le bouddhisme. Regardez dans les magasins, les jardineries, on voit des têtes de Bouddha partout. Et vous allez aux déchetteries, vous trouvez des crucifix dans les bacs aux détritus. Il y a des ouvriers de la déchetterie qui, un jour, qui m'ont dit, on les a mis de côté, on vous les donne, pasteur. Ça nous fait du mal de voir cela. Alors, des Bouddhas partout, dans les jardineries, partout, on en trouve chez les gens, mais les crucifix aux déchetteries dans les bacs, vous en comprenez. On en est là, mais ce qu'il y a, c'est pourquoi, parce qu'on a part de l'idée que le christianisme a encouragé une domination exacerbée sur la nature, et des abus, des exagérations, par la civilisation technique, chimique, etc., contemporaine. En fait, bien sûr que les grandes églises catholiques et protestantes ne dénoncent plus le péché. Donc la civilisation socialiste ou néo-socialiste, écologique, etc., qui est là, ne voit pas une église qui condamne le péché, ne voit pas une église qui condamne l'abus d'argent, l'abus des pouvoirs industriels. Elle les voit comme complices. Donc elle se dit, c'est la Bible tout ça. C'est la faute. On attaque Dieu, on attaque la Bible à cause de ça. Parce que le témoignage est scandaleux de la part de ce monde qui se dit chrétien, et qui ne l'est pas. Alors, il faut savoir que ici, dans la Bible, il n'y avait pas le péché. Donc l'homme était capable de régner sur une terre dans la sainteté et dans le respect. Et c'est aujourd'hui la mission d'un chrétien, c'est d'utiliser ce que Dieu lui donne dans la sainteté et le respect, dans une considération que tout est important. Donc ce qu'a dit tout à l'heure Vincent, à propos, en prenant des textes de l'Écriture, est essentiel. Et moi je n'ai pas, on ne s'est pas synchronisé, c'est sans doute Dieu qui nous a synchronisés pour ce sujet. Je vous donne, verset 29, tout herbe portant la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence. Donc, si nous mangeons du blé, du riz, du millet, du sorgho, différentes céréales comme l'avoine, l'épeautre, c'est ça, c'est les herbes portant des semences. Et les arbres qui ont des fruits avec des semences dedans, l'orange, la pomme, etc. Ok ? Donc, quand une orange n'a pas de pépins parce qu'elle a été vaccinée, vous ne devriez pas la manger. N'encouragez pas ça. N'encouragez pas ça. Vous ne savez pas pourquoi, mais obéissez à la parole. Obéissez à la parole. Vous saurez plus tard. Si Dieu doit expliquer tout ce qu'il a dit, là, la Bible est plus haute que la tour Eiffel, elle est impossible à ouvrir et à porter. Obéissez. Pour votre bien, pour l'honneur de Dieu. Alors, ici, et moi je suis dedans avec, je ne me mets pas en dehors de ce que je dis, à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, et en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. C'est pas bon, c'est très bon, c'est l'excellence même. Et on a des films, Ushuaïa, etc., des racines et des ailes à la télévision, nous voyons bien des choses magnifiques. Mais avant que le péché ne soit sur terre, c'était encore mille fois mieux. Et quand il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, quand Christ reviendra, ça sera mille fois mieux que ce qu'on voit. Il n'y a pas des frelons noirs qui viendront tuer les abeilles dans les ruches. Il n'y a pas des tiques dans la forêt qui viendront vous piquer, donner à des gosses ou à des gens qui ne font pas attention quand ils rentrent, qui n'ont pas vu qu'un tic, ils ont un tic dans la peau, et puis que 6 mois, 1 an après, ils sont malades pour le reste de leur vie. Il n'y aura pas ça. Alors, il y a un équilibre, une richesse dans la nature qui est parfaite. Tout est parfait. Ça change le bien. Et cette création nécessite, de la part de celui qui a été l'entrepreneur de cette création, le Christ, le Fils de Dieu, Colossiens chapitre 2, il est l'image du Dieu invisible, tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Eh bien, le créateur, l'entrepreneur, se retourne le septième jour en disant, voilà Père, ce que tu m'as permis de faire, je l'ai fait en ton honneur et pour ta gloire. L'action de créer se termine par l'adoration et la reconnaissance d'action de grâce. De la part de Christ. C'est pour ça que Christ, toujours sur terre, tous les jours, le soir, la nuit, il priait, il entraînait ses disciples. Parce que ça fait partie de la manière constituante de notre vie d'adorer, d'aimer Dieu, de lui rendre gloire. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de vie complète et réussie sans l'adoration, sans l'action de grâce. C'est comme quelqu'un qui n'aurait pas de jambes et pas de bras quand il va se présenter devant Dieu. Il faut être complet, il faut avoir la plénitude de Christ en nous pour se présenter devant Dieu. N'oublions pas cela. Donc dans la nature, il y a une relation directe à la perfection divine, il y a une relation directe à la perfection que nous avons perdue, mais que en Christ nous sommes appelés à mettre en œuvre, en Christ, par Christ, et il y a une relation directe avec l'adoration et l'action de grâce. Non pas parce que c'est beau, c'est beau, c'est beau, non, pour dire merci mon Dieu, pour l'adorer lui, pour lui rendre tout dans l'action de grâce. Voilà ce que je voulais dire, la nature au point de départ est déjà essentielle pour tourner nos yeux vers la gloire du Père. Prenons Deutéronome chapitre 11, c'est aussi un écrit de Moïse, hein, c'est un écrit de Moïse, Deutéronomos ça veut dire en grec deuxième loi, nomos loi, deutéro deuxième. Donc dans ce cinquième livre de la Bible, hein, c'est au début, hein, chapitre 11, verset 11.
143.
Chapitre 11, verset 11.
Page 143.
Chapitre 11, verset 11 et 12. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est beau quand même. Hein? C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Rendez compte de ce qui est dit là. C'est Dieu qui prend soin de sa terre, et qui a les yeux continuellement dessus. Quand j'étais hier au champ, bon, je prie, je suis à quatre pattes, je suis en train de replanter des fraisiers, etc., et des mûriers, framboisiers, mais je vois passer des gens. Est-ce qu'ils rendent gloire à Dieu? Je vois passer des tracteurs, allez, zoom, à fond la caisse, et puis dans le champ, ça bosse, hein, avec des tracteurs pareils. Puis repart. Y a-t-il eu 5 secondes d'adoration? Pour une heure et demie de boum boum, hein, de travail à fond la caisse avec le tracteur. On sait bien que si je parle de paysans, en même temps je vous dis, vous pendant ce temps-là, pendant que le paysan travaille et trimé pour vous, est-ce que vous avez adoré Dieu? Est-ce que vous avez prié pour ce paysan? Tout va ensemble, hein. Nous ne pouvons pas regarder la paille qu'il y a dans l'œil des paysans modernes et ne pas voir la poutre qu'il y a dans le nôtre. Parce que nous mangeons ce qu'ils produisent. Parce que nous rendons gloire. Parce que nous prions pour les paysans qu'ils rendent gloire. C'est extrêmement important. Tout ça, c'est très important. Dans Deutéronome chapitre 4, il est clairement dit que si cette... chapitre 3... hein, chapitre 3, versets 23 et 24. En ce temps-là, j'implorerai la miséricorde de l'Éternel en disant, donc nous avons affaire à Moïse, hein. Deutéronome, chapitre 3, versets 23 et 24. Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Ben, il n'y en a pas en dehors de l'Éternel Dieu. Il faut avoir des prières où on tranche les choses. Parce que quand on tranche, on prie, clairement, Satan recule. Parce que lui veut être Dieu aussi. Dans notre cœur et dans l'humanité, dans les biologistes, dans les politiciens, la prière tranchée, positionnée clairement devant Dieu du chrétien, fait du bien à la société. Elle va faire reculer tous ceux qui sont dans le monde invisible, veulent Dieu à la place de Dieu. Deutéronome 4, verset 19. Deutéronome 4, pas verset 19, verset 15. Vous n'avez vu aucune figure. Deutéronome chapitre 4, verset 15. Le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, donc Sinaï, veillez attentivement sur vos âmes. Ah, ce qu'il faut prendre soin de c'est l'âme, hein? De peur que vous ne vous corrompiez, c'est-à-dire que vous alliez vers la mort, ça, spirituel. Vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux, au-dessous de la terre. Vous voyez bien que toutes les statues, tout ça nous incline à nous distraire de la vraie adoration. Et il y a une rigueur dans le comportement du croyant pour éviter tous les autres abnégos. Nous passons sur des ponts régulièrement. Imaginons qu'il n'y a pas de garde-corps. Je passerai 1000 fois sans tomber dans la rivière ou sur les rails en bas. 1000 fois. Mais une fois, j'y tomberai quand même. Ou c'est mon enfant, ou c'est mon oncle, ou c'est ma cousine. Alors on a mis des garde-corps. La Bible de Dieu donne des garde-corps, les amis, pour le bien de l'humanité. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Verset 19. Veille sur ton âme, parce que c'est là que tout se passe, n'est-ce pas? C'est là où sont les grands enjeux, dans notre intériorité. Veille sur ton âme de peur que levant tes yeux vers le ciel, voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et leur rendre un culte. Donc, quand vous ouvrez la télévision, maintenant vous poussez et vous zappez, hein, vous avez 3-4 au moins chaînes avec de la voyance en perpète, hein, jour et nuit, avec des consultations d'étoiles, des consultations de ci et de ça. Hein. Et ça rapporte du fric. Ça tourne. Vous regardez dans les petits journaux, il y a des annonces tout le temps. Pour ça. Donc l'ennemi cherche à dévoyer l'homme du vrai Dieu. Pourtant, c'est un verset qui est ici dans Deutéronome, chapitre 4, verset 24. L'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. L'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Il faudrait s'habituer à ne pas lui marcher sur les pieds et à se moquer de lui. Il ne faut pas toujours dire « Dieu est amour, Dieu est amour hein ». On peut lui taper sur le dos, sur le ventre, il nous aimera toujours, nous pardonnera toujours tout. Ce n'est pas comme ça dans la Bible. Alors, ce verset est repris dans Hébreu, les amis, dans le Nouveau Testament. Chapitre 4, verset 24, l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Donc, l'idolâtrie, sous toutes les formes, née du contact avec la nature, est interdite. Nous voyons la nature, nous la gérons avec justice, avec respect, avec sainteté, et nous rendons gloire à un Dieu invisible, parfait et unique, qui a parlé par les Moïse, par les prophètes, par Jésus-Christ, par sa Bible. Point à la ligne. Point à la ligne. Tout le reste, il faut le déblayer. Alors, vous avez vu tout à l'heure dans le psaume 8, hein, j'avais prévu d'en parler, vous avez vu que Vincent a pris le psaume. Rappelez-vous, ouvrez-le si vous voulez bien, le psaume 8. Hein. Le psaume 8. Par la bouche des enfants, verset 3, par la bouche des enfants et de ceux qui sont la mamelle, tu as fondé ta gloire. Nous voyons qu'en général, on a fait des camps beaucoup ici. Malheureusement, on n'en fait plus pour le moment. Puisse Dieu un jour le refaire. Vous avez sur la table des photos. Ça demande une énergie folle. Il faut être plus nombreux. Tout repose un peu trop sur la famille de Vincent et ici. Et il faut beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup de personnes pour faire tout ça. Et on s'épuise. On devient moins nombreux. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on abandonne, mais ce qu'il y a, c'était bien de faire des camps. Parce que on a vu souvent les enfants bien disposés vers Dieu, là en haut, ceux qui sont là, aiment Dieu. Hein. Bénédicte l'a dit vraiment, quand je pense avoir fini, il me pose des questions et ça continue. C'est chouette. C'est chouette. Eh bien, les enfants ont un appel vers Dieu, qu'après, les adultes vont casser, détruire. Soit par des simagrées, au mois de mai, comme je vous ai parlé, soit par des oppositions carrées. Non, il n'y a pas de Dieu. Non. Puis si Dieu existait, il n'y aurait pas la guerre, il n'y aurait pas si. Donc, l'enfant, au départ, se tourne vers Dieu. Parce que l'intelligence de l'enfant est plus pure que celle de l'adulte. Psaume 8, verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont la mamelle, tu as fondé ta gloire. Donc, ils rendent gloire à Dieu pour confondre tes adversaires. Les adultes, les adversaires. Les traditions religieuses. Les traditions sociales et politiques. qui mélange tout pour imposer silence à l'ennemi au vindicatif. Derrière cela se cache un ennemi puissant de Dieu, Satan. L'ennemi, le vindicatif, qui veut se mettre à la place de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que cet homme, cet enfant qui grandit, cette petite fille qui deviendra une femme, c'est des adorateurs en puissance. Ils sont appelés à adorer et aimer Dieu. Dans certains pays, on voit que les parents encouragent les enfants à aimer Dieu, à les adorer. Ici, on a pris le pied contraire. Prenons Romains, chapitre 1. Romains, chapitre 1. Chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, donc manque de foi, toute opposition à la foi, toute injustice des hommes, donc désobéissance, manque de sainteté, refus de la sainteté, refus de la vérité, qui transforme, refus de la repentance. La colère de Dieu se manifeste contre tous ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand elle les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc, avant le péché d'Adam et Ève, on n'avait pas ce problème, l'homme était un adorateur. Le Christ qui a tout créé a montré le chemin et passé devant pour dire « Rendons grâce, septième jour, on achève la création dans l'adoration. J'achève ma journée dans la prière. Je rends grâce à Dieu. Eh bien, j'achève ma vie dans l'adoration et la prière. Je pense que plus on vieillit, plus on devrait prier. C'est bon signe. Si en vieillissant, on prie de moins en moins, grave problème. Grave problème. Qu'est-ce qu'on a compris de la vie alors? Il y a, comme les saisons dans la nature, dans nos cœurs, dans nos os, dans tout, il y a une transformation et il y a un chemin. Et le chemin va vers l'adoration. On finit dans l'adoration. On finit dans l'action de grâce. Et dans l'éternité, il n'y a plus que ça. Notre chemin sur terre, c'est un pèlerinage pour se préparer à cette dimension éternelle d'adoration et de louange et de gloire. Alors, je vous le dis, plus on prend de l'âge, plus on doit être dans la prière et l'adoration. Le monde en a besoin, mais c'est aussi ce que Dieu nous demande. C'est notre condition première et dernière. Alors, vous voyez ici dans ce texte que Dieu est fâché, et la colère. Pourquoi ? Parce que l'homme ne veut pas le reconnaître comme Dieu. Et donc, et Dieu dit ceci, à travers la nature, on voit comme à l'œil nu sa grandeur, sa divinité, sa personnalité. Au verset 21, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu, ils n'y ont point rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en images, etc. » Là, on comprend que l'humanité a commencé à exploiter le monde pour ses propres besoins, insensé. J'ai suivi hier, je ne l'ai pas fait exprès, j'écoutais un concert en lisant ma Bible, en relisant mes notes, parce qu'il y a longtemps que j'ai travaillé ce sujet, en relisant mes notes, puis tout d'un coup j'allais aller dormir, une émission des grands directeurs de qui sont à la retraite, exploitation de pétrole, et qui parlent de l'avenir du monde avec le pétrole. Mais c'était très bien fait. Quand ils sont à la retraite, ils ont pris de la distance, ils peuvent parler. Alors, le pétrole naturel, qui coule facilement en Arabie, etc., va vers sa fin. L'Arabie et d'autres pays ont triché dans les chiffres pour les y croire qu'il y en a encore beaucoup. Mais, dans beaucoup de pays, on ne croit plus trop ça, et on fait de l'exploitation, par exemple, des argiles et des sables qui sont remplis de bitume. On fait de l'exploitation des gaz dans les roches, de schiste, en envoyant de l'eau. On fait des forages dans les océans, offshore, jusqu'à 2-3 000 mètres maintenant. Et ils rêvent d'aller jusqu'à 10 000 mètres, avec de grands risques. Et vous avez vu dans le golfe du Mexique la catastrophe qu'il y a eu. Il y en a eu d'autres. Alors, parce que le pétrole a une fin, mais l'humanité augmente. Et l'idée de l'humanité, c'est tout le monde sa voiture. Peut-être deux. Et pas une petite, une grosse. Alors, ils expliquaient que les hommes politiques et la population mondiale veulent vivre dans l'aveuglement et ne veulent pas admettre qu'un jour, il n'y a plus assez. Et s'il y en avait encore assez, s'il y en a assez, il sera tellement coûteux dans l'exploitation, coûteux dans la transformation, qu'il sera impossible de l'acheter pour beaucoup. Si actuellement, nous avons déjà dans notre budget des factures pour le recyclage des poubelles, vous voyez bien, le prix augmente. C'est quelque chose d'important. Nous avons un budget pour le pétrole, pour les voitures, un budget pour le chauffage. Considérez que ce budget pétrole pour les voitures et chauffage va être multiplié par 7 ou 8 d'ici 30 ans. Peut-être 10. Donc la partie qu'on a sur la table pour manger est plus petite. La partie qu'on a pour s'habiller est plus petite. Mais il faut savoir que plus on pollue, plus on est nombreux qu'on utilise le pétrole, plus il faut des stations de dépollution de l'eau, etc. Donc on facturera, nos États factureront des frais de dépollution, de protection écologique. Donc finalement, la partie pour manger va toujours diminuer. Nous allons vers une impasse. Tout le monde voudra des beaux habits, etc. Et où on va les mettre, ces habits? Les chaussures, les plastiques, on va les mettre. Tout cela coûte. L'autre gros problème de notre humanité, c'est l'électricité. Tout le monde veut aller dormir à l'heure qu'il veut. Et utilise des ordinateurs, des appareils électriques. Et il faut de plus en plus d'électricité. Et le monde, partout, veut copier ce que la race blanche a montré. Si bien que le besoin d'électricité est énorme. Seule solution, le nucléaire. Le nucléaire, quand il fait des déchets, où on le met? Au début, on l'a mis dans les océans. Puis on se rend compte que c'est trop grave. On pêche du poisson tous les jours, etc. Puis c'est déjà très grave. Donc maintenant, on trouve des zones d'argile de 300-400 mètres d'épais, et puis on fait des puits, on fait des galeries latérales, et on met des tubes dans les... On fait des tunnels, on enfonce des tubes, et on glisse les tonneaux là-dedans, puis on les referme, etc., puis on ferme les puits. J'ai toute une brochure dans mon bureau que j'ai lue, j'ai épluché là-dessus. Ça prend du temps, c'est de la perte de temps, je n'en sais rien, puisqu'il faut que je prêche, il ne faut pas toujours que je rêve, hein, ils disent des choses. Cette façon d'enfouir les déchets radioactifs dans le sol, dans les zones d'argile, coûte très cher. Donc le coût de l'électricité va augmenter. Le coût de tout ce qui est protection, recyclage des déchets va augmenter. Donc nous exploitons d'une manière folle la nature jusqu'à un point où nous n'aurons plus à manger. Parce que tous les frais que nous devrons faire pour nous protéger, et qui ne nous protégeront pas assez, vont nous empêcher d'avoir une économie. L'économie mondiale est destinée à crouler. Voilà ce que disent les directeurs de tout. J'ai écouté ça jusqu'au bout, minuit et demi. Tous des gens qui ont 5, 10 ans plus que moi, qui sont des grosses têtes, hein, et il y a un monsieur qui travaille à l'Institut, qui fait la troisième année, qui les connaît tous, il m'en a parlé, il m'a dit que ce sont des gens tous extrêmement intelligents, très qualifiés. Je les connais personnellement, j'ai travaillé avec eux. Ce chrétien qui travaille, qui est à l'Institut, a été directeur d'implantation de gros champs de pétrole pour... Je dirai son nom. Mais il m'a dit, ces gens sont des gens brillants. Ils ont bien réfléchi au problème. Alors, gloire à Dieu qu'un de ces hommes est à l'Institut en train d'étudier, en même temps que Michael et Noémie. Il a bifurqué. Alors, les amis, notre humanité, comme elle est là, exploite la nature à un point où elle va à une impasse. Dieu n'a pas voulu d'impasse pour nous. C'est l'homme qui l'a vu. Ils ont dit clairement, ces gens, que les hommes politiques et la population mondiale est aveugle et ne veut pas ouvrir les yeux et admettre qu'il faut voir les choses autrement dès maintenant. Faites-vous partie des insensés comme eux? En tant que chrétien, on ne peut pas être insensé. La règle même, c'est de ne pas être insensé. Dites à vos enfants, à tout chrétien, de voir comment il mange, de voir s'il n'a pas des heures pour faire son jardin, de voir s'il n'a pas du temps pour chercher à vivre autrement, à penser autrement, manger autrement, pour qu'il y ait plus de justice, moins de déchets. C'est dans les règles que Dieu vous demande, en tant que chrétien moderne. Regardons dans Deutéronome chapitre 3. Ce sont des athées qui parlaient, hein, en plus. Vous savez, j'ai souvent des contacts avec des musulmans, je suis content, parce qu'avec eux, on peut parler de Dieu. Les Belges et Français, oulala, pas facile. Les Européens, pas facile, hein. Dieu. C'est vraiment sur le coin, et il y a un sourire, tout de suite, un sarcasme. Mais ce qu'il y a, un jour, quand même, un vieux monsieur musulman m'a dit, le pétrole, c'est l'excrément du diable. Effectivement, avant le péché, il y avait des forêts partout. Il y a eu le péché, l'homme a été chassé de l'Éden, l'Éden est pourri, les arbres sont pourris. La preuve que l'Éden existait, c'est qu'il y a du pétrole partout. On exploite du pétrole, du gaz, partout, sur la Terre, même en dessous des océans. L'Éden a existé, c'est une preuve de la Bible. Mais pourquoi l'Éden a disparu? À cause du péché. Et on dit qu'il n'y a pas de sanction de Dieu. Ben, nous avons pris le fruit d'une sanction, c'est le pétrole. Quand ce musulman m'a dit, moi je voudrais bien ne pas boire de l'eau dans une bouteille en plastique. Je voudrais bien pas utiliser ça, uniquement de la terre cuite comme c'est mis dans le Coran. Et je pense que c'est même mis dans la Bible. Pourquoi? Ben, ça en fait encore du pétrole, excrément du diable. Il avait une vision peut-être courte, mais bon, il n'avait pas tort. Deutéronome chapitre 3, verset 23. En ce temps-là, j'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant, « Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits ?» Vous voyez l'adoration de Moïse, qui venait de la cour des pharaons, qui a tout quitté, qui a vécu avec son bâton dans le désert avec des brebis, et qui a vécu dans le désert. Regardez comment il parle. Deutéronome, chapitre 3, verset 23-24. « J'ai imploré la miséricorde de l'Éternel en disant, « Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur, ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits ? Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. » Donc on voit une aspiration à trouver une bénédiction. Maintenant, nous, les chrétiens, un peu comme Moïse, il faut savoir les choix qu'on doit faire. On ne peut pas rester dans la cour de Pharaon. La deuxième chose, on ne peut pas trouver les orientations des pharaons du monde. La deuxième chose, on doit aspirer à passer de l'autre côté, à voir ce bon pays de l'autre côté. Ce royaume que Jésus-Christ viendra installer. Un chrétien qui n'attend pas le royaume de Christ, pour moi, c'est qu'il aime les pharaons et qu'il est comme les pharaons. Aussi pourri. Chrétien de nom. Deutéronome 8. Peut-être que je l'ai lu tout à l'heure, je ne sais pas, on va voir. Deutéronome 8, verset 7. L'Éternel, ton Dieu, Deutéronome 8, verset 7, « Ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources, de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'olives et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes auxquelles tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras, tu te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. » Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Aujourd'hui, pour un chrétien, C'est une règle fondamentale, ceci. Deutéronome 32. Il est si bon d'être avec le Seigneur et de l'aimer. Il est si bon de lui rendre gloire. Il est si bon de vivre comme ça. Pourquoi vivre dans ce monde de tourment qui va se casser la figure? Il est si bon déjà d'être avec le Seigneur et de prendre des choix dès maintenant. Ça demande du courage, oui, mais c'est couvert de bénédictions. Moi je pense, hein, quand je vois, il y a quelqu'un de notre église qui va travailler à vélo tous les jours. 5-6 kilomètres, fois 2. Et puis il gèle, il pleut, il y va. Pourquoi? C'est un choix. Oui, c'est un choix, parce qu'il faudrait 2 autos dans la maison autrement. Alors, pratiquement, faisons attention à tout ce que nous faisons. Nous n'avons pas toujours la bonne position en face de Dieu que nous pensons avoir. Il faut bien réfléchir. Deutéronome 32, versets 1 à 7. Cieux, prêtez l'oreille, je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Tiens, tiens. Ah bon, mais c'était pour Moïse. Oh, c'est fini, ça. Oh, Dieu ne parle plus. Hein. Moi, j'ai jamais vu qu'il me parlait. Hein. C'est quoi ces carabistouilles-là? Hein?
160.
Bon, j'ai été promené au bois, j'ai été dans le champ, j'ai pas vu qu'il me parlait, moi. Hein. Ça y est. Ça, c'est du tout craché européen. Français, franco-belge, tout ce que vous voulez. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Donc, il y a une communication de Dieu avec nous. Qu'est-ce qu'a dit Dieu? Je ferai entendre les sourds. Je ferai voir les aveugles. Je ferai marcher les estropiés. Eh bien, il est temps. Il est temps. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Ah, tiens, l'image de cette pluie qu'on aime bien pour le jardin et les champs, hein? Eh bien, la même chose pour moi, Seigneur. La même chose pour moi. Je suis ouvert, je suis prêt à recevoir. Je suis aussi dépendant que la carotte dans le jardin, s'il pleut ou il ne pleut pas. Je suis aussi dépendant du grain qui est semé ou du maïs qui est semé dans le champ, Seigneur, envers toi, que le maïs envers le soleil. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est la petitesse. Celui qui s'abaisse sera élevé. Je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Regardez bien ce qu'il est mis. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Tiens, est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé, dépourvu de sagesse? C'est ce qui se passe, hein? On s'en prend à Dieu, mais c'est tout à fait ça. Il faut du temps, vous savez. J'avais fait mes notes déjà plusieurs fois, puis je dis, Seigneur, tu sais bien, il faut que j'aille dans la Bible, que je cherche. Je vais aller voir dans les prophètes, dans Moïse, c'est tout, qu'est-ce que tu dis? Pour illustrer ce que j'ai préparé pour demain. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Voilà, les amis. Voilà des choses à méditer. En se mettant sur un banc. Et le pire dans nos sociétés, c'est que les vieux maintenant, les gens qui auraient de l'âge, qui pourraient transmettre ça aux enfants, ils ne s'asseyent plus devant un banc pour réfléchir comme ça. Ils s'amusent comme des gosses. Et alors, il n'y a plus rien pour les enfants qui suivent. Il n'y a pas de modèle. Pitié, mon Dieu. Pitié. Job, chapitre 22. Job. C'est avant les psaumes, les amis. C'est avant les psaumes, Job. Job, chapitre 22, verset 12. Job 22, verset 12. Job 22, verset 12. Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux ? Regarde le sommet des étoiles comme il est élevé. Et tu dis, ça c'est le 21 siècle avant Jésus, hein, les amis. C'est écrit par Moïse, hein, mais c'est de l'époque d'Abraham. Et tu dis, donc c'est comme aujourd'hui, quoi. Il y a 42, 43 siècles, c'est comme aujourd'hui. Les hommes sont les mêmes, quoi. Depuis le péché d'Adam et Ève, ils raisonnent de la même façon. Sauf celui qui s'est repenti, hein, qui adore son Dieu. Job, chapitre 22, verset 12. Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux ? Regarde le sommet des étoiles comme il est élevé. Donc, voilà un croyant qui parle. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait ? Peut-être juger à travers l'obscurité ? Les nuées l'enveloppent, il ne voit rien, il ne parcourt que la voûte des cieux. Une façon de se moquer de lui, hein ? Et quoi ? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité ? Ils ont été emportés avant le temps, ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Il disait à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant ? Retire-toi de nous. Mais c'est ça, hein, aujourd'hui. Dieu, cependant, avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Les justes, témoins de leur chute, se réjouiront. L'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires anéantis. Voilà leurs richesses dévorées par le feu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens tout-puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, j'ai de l'or, tiens, voilà pour le Luxembourg, pour les banques. J'ai de l'or dans la poussière et tous ceux qui travaillent. L'or d'Ophir parmi, Ophir c'est le sud Yémen, parmi les cailloux des torrents, et le tout-puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Parce que Jésus a dit, là où est ton cœur et ton trésor, hein ? Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Un visage en face de Dieu, vous imaginez ? Mais c'est exceptionnel. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a mis là ? C'est le summum de mon existence, d'être en face de Dieu. C'est le summum. Il n'y a rien de plus grand. Ou alors c'est loin de lui, banni. Hein ? Tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, il t'exaucera, tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Donc, humain, donc pas du pécheur, mais de Dieu, du sauveur. Alors, les amis, dans la Bible, partout, on trouve des choses vraies. Chapitre 8 de... Attendez, dans Job. J'étais dans le chapitre 22. Mm-hmm. Bon, chapitre 12. Chapitre 12.
382.
Je suis loin d'avoir fini aujourd'hui, je vais bientôt arrêter, mais ce sujet sur la nature, hein, loin. Job chapitre 12, verset 7. Job chapitre 12, verset 7. Alors, regardons la nature. Puisque c'est à la mode d'être écologiste et d'avoir des statues de Bouddha partout, ben on va voir si la Bible n'est pas mieux. Chapitre 12, verset 7. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils t'apprendront. Ils te l'apprendront. Ah tiens. Donc vous voyez qu'il y a un écolage. Quand le cœur est ouvert, dans la nature. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses ? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Et, adieu l'avortement, hein ? L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, comme le palais savoure les aliments ? Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie l'intelligence. Oui, en principe. Oui, en principe. Mais quand il y a trop de télévision, il n'y a plus rien. De zéro. Quand il y a la prière et l'adoration, oui. La crainte de Dieu. Verset 13. En Dieu résident la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qu'il enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre en est dévastée. Vous voyez les phénomènes climatiques. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Donc, quand quelqu'un vraiment, quelque part, a cherché Dieu, et quelque part est déjà appelé, il va s'égarer forcément, hein, parce qu'on est tous un peu idiots sur les bords, ou beaucoup. On peut faire des zigzags, des conneries, des choses qu'on ne doit pas faire. Et Dieu, par ici, mon pote. Il se met en travers du chemin, allez, bifurque à droite, reprend la route droite. Il fait des zigzags avec nos bêtises. Il tire sur le zigzag, ça fait une ligne droite. Mais en attendant, regardez bien, il a l'art de ramener la vérité chez quelqu'un, s'il l'a appelé. Hein? Alors, verset 16, il possède la force et la prudence, il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres, ben, pour ceux qui se moquent de lui. Il emmène captif les conseillers. Il trouble la raison des juges. Ben, ça, c'est le cas de le dire pour le moment. Il y a beaucoup de choses. Il délie la ceinture des rois. Il mène corde autour de leurs reins. Il emmène captif les prêtres. Il fait tomber les puissants. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive le jugement les vieillards. Il emmène captif les prêtres. Je lisais, encore cette nuit, dans un journal, qu'en 2010, alors qu'il y avait eu tellement de scandales avec la pédophilie et tout ça sur les enfants, rien que pour la France, il y avait eu 32 cas de graves de pédophilie, de prêtres avec des enfants, et cachés par les évêques, 28 ont été déplacés dans l'endroit où on continue à être prêtres, donc ils ont en leur contact des familles des enfants, et la loi française leur obligeait à signaler à l'État. Quand moi j'étais prêtre, au bout de 2-3 ans, j'ai été trouvé les responsables en disant « ça ne peut pas continuer, vous devez arrêter tout ça, il faut se marier, il faut mener une vie sérieuse. » Vous pouvez avoir une petite aventure de temps en temps, c'est pas grave. Les amis, il emmène captif les prêtres. Vous avez compris? Ils ne seront pas auprès de Dieu. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards. Tiens, c'est ce que je disais. On a beau vieillir, il y a des personnes qui n'ont plus aucun jugement équilibré et sain. Il verse le mépris sur les grands, il relâche la ceinture des pauvres. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. On est en train de le voir. Il les fait errer dans des déserts sans chemin. On est en train de le voir. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. Les amis, regardez au chapitre 13, verset 1. Voici, mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Mon œil y a pris garde. Donc, la vie, même si on n'a pas été éduqué dans la foi, la vie peut donner des leçons. La vie, Dieu nous parle, nous conduit. Je refuse, j'accepte. J'ai l'amour de la vérité, je maintiens la vérité captive dans mon cœur. Vous voyez bien que c'est... Dieu est un artisan dans la nature, dans les oiseaux, dans tout, et dans les âmes. Dieu est un artisan. Il veut installer la vérité. Chacun de nous ici, mes amis, qui est ici, a-t-il dans la semaine des moments de vérité avec son Dieu, où Dieu peut le reprendre, peut le corriger? Et chacun de nous a-t-il des moments de repentance? Oui, Seigneur, il ne faut plus que je fasse ça, il ne faut plus que je pense comme ça. Vous voyez, c'est fort important, les amis, fort important, de laisser Dieu à l'œuvre dans nos vies. Et, oh, moi, je ne crois pas, donc je peux tout faire. Mais non, parce que Dieu s'adresse à toi aussi, un croyant. Tu es musulman, je ne crois pas dans la vie. Dieu s'adresse à toi aussi. Dieu s'adresse à tout le monde. Est-ce que tu vas y prendre garde? Ne débine pas. Est-ce que tu vas y prendre garde? Job, chapitre 5, verset 8. Alors, ne me parlons pas de spiritualité et de nature. Moi, je ne les oppose pas. Chez Aristote, un grand philosophe grec, il n'opposait jamais la spiritualité, la science. Il y a plein de gens dans d'autres pensées qui ne les ont jamais opposées. Nous, ici, on oppose. Tout appartient à Dieu et il agit dans tout. Et il voit comment on se comporte à son égard. Job, chapitre 5, verset 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre, il envoie l'eau sur les campagnes, il relève les humbles, il délivre les affligés, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux comme en plaie, tu verras ta postérité s'accroître, tes rejetons se multiplient comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre d'un vieillesse comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est à toi, ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Donc, on emporte une gerbe dans son temps dans le sépulcre, ça veut dire quoi? Cette gerbe-là, c'est les prémices, c'est la gerbe qui montre que j'ai foi, qu'à la résurrection, je vais faire de magnifiques œuvres avec Dieu. Si j'ai cultivé un champ et que je pars avec une gerbe dans mon cercueil, plus tard, à la résurrection, j'aurai de grandes récoltes. Ce n'est pas seulement question de gerbe, c'est question de tous les autres domaines de la vie. Ce que je sème, je le moissonnerai, a dit l'Épître aux Galates. Ce que je sème, je le moissonnerai. N'oubliez jamais ce qui se fait aujourd'hui dans ma vie, ce que j'emporte avec moi dans mon sépulcre. S'il y a quelque chose qui est agréable à Dieu, se multipliera 1000 fois. Si tout est désagréable, le néant, c'est le néant avec Satan, les temps de feu et de soufre. Il y a bien d'autres textes dans Job pour montrer que c'est basé sur la résurrection. Il y a 5-6 passages sur la résurrection. Dans Job. Il y a d'autres textes, les amis. Job 37. C'est pour ça que, je veux dire, nous n'opposerons pas la nature et la conscience. Nous n'opposerons pas la nature, la conscience et Dieu. Et il y a un seul chef d'orchestre pour tout, conscience, nature et tout. Le grand Dieu que nous aimons, en qui nous croyons. Job 37, verset 1. Mon cœur est tout tremblant. Il bondit hors de sa place. C'est un grand émotif, hein. Mais je pense qu'il y en a beaucoup ici. Écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Donc, quand il y a le tonnerre, etc., dans le ciel, hein. Kol Yahvé, hein, en hébreu, la voix du Dieu Tout-Puissant. Hein. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux. Son éclair brille jusqu'à l'extrémité de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la terre, tombe sur la terre. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Vous savez que un homme, fin du XVIIIe siècle, a trouvé que chacun, en ayant lu ça, nos lignes, n'a pas de main la même hein, ici, sur la terre. Hein. La police s'en sert. Et même dans les aéroports, le pouce, il suffit. Le dessin du pouce suffit. Donc, et pourquoi? C'est pour que ça ne serve pas la police? Les empreintes digitales. Non, c'est pas ça. Regardez. Afin que tous se reconnaissent comme ces créatures. Comme je suis unique, comme mon empreinte n'est pas comme celle de Ghislain ou d'Annette, là et là, je dois savoir que je suis unique aux yeux de Dieu. Psaume 139. Père, je te loue car je suis une créature merveilleuse à tes yeux. Alors que je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, déjà tu me connaissais. Tu connaissais toutes les paroles qui étaient déjà, qui viendraient sur mes lèvres. Tu connaissais toutes les pensées qui viendraient en moi. Quelle science infinie, mon Dieu. Où fuirais-je loin de toi? Dans les cieux, sous terre, à l'Orient, à l'Occident, tu es toujours là, ton esprit est toujours là. Il n'y a pas d'opposition pour moi entre le spirituel et la nature. La nature est le tremplin, comme dans une piscine, je suis sur le tremplin et plouf! La piscine, c'est Dieu. Le tremplin, c'est la nature. N'importe quel homme, un peu sensé, qui n'a pas d'a priori, réagit comme ça. C'est pour ça que vous trouvez des gens qui croient en Dieu, dans beaucoup de races sur la terre, et qu'on arrive à avoir un dialogue. Je n'ai jamais eu peur de rencontrer quelqu'un de différent, moi, à cause de ça. Et des choses profondes qui s'échangent. Alors, si vous lisez tout le chapitre, bien sûr, c'est important, c'est beau, mais je ne vais pas le lire. Simplement, je vais lire quelques versets. 14. Job, sois attentif à ces choses, considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige? Fais briller son visage, son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement des nuées? Donc, comment elles circulent, etc., la météo. Les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par les vents du midi? Peux-tu, comme lui, étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de fonte? Un peu plus loin, dans le verset 22. Oh, que la majesté de Dieu redoutable! Verset 23, nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne nous répond pas. Verset 24, c'est pourquoi les hommes doivent le craindre, ils ne portent les regards sur aucun sage. Il ne répond pas aux orgueilleux, à ceux qui sont sages à leurs propres yeux. Voilà. Quelle belle chose, les amis. Quelle belle chose. Quelle belle chose. Job 36. Verset 24. Job 36, verset 24. Souviens-toi d'exalter ses œuvres que célèbrent tous les hommes. Vous voyez bien? Le célèbre tous les hommes. Il y a des hommes partout qui ont cette célébration. Et qui ne sont pas forcément dans une mosquée ou dans une cathédrale. Dieu est grand. Tout homme les contemple. Chacun les voit de loin. Vous voyez, des affirmations, tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il faut lire tout, hein. Il faut lire tout pour se régaler, se remplir, se rassasier l'âme et se construire, les amis. Voilà. Lévitique 25. Dommage que je dois arrêter. Lévitique 25. Tellement de belles choses dans la Bible.
25.
Lévitique 25. C'est encore un livre de Moïse. Dans Lévitique 25, nous avons quelque chose d'extrêmement important. Et vous allez voir, je ne lirai pas tout, je vais survoler, je vous en prie, allez le relire. Hein? L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne. Tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. Un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'en semenceras point ton champ. Tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson. Tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera un né de repos pour la terre. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la culture moderne? La culture moderne, c'est le business. 9 à 12 tonnes de blé à l'hectare ici en Gaume. Vinzinanès. Et puis après, vite que ça défile les sous en compte en banque. Vite que je rachète un tracteur encore plus gros. Vite que je rachète le champ du voisin. Mais si j'arrête toutes mes cultures pendant une année, ah ben c'est pas possible ça. À tout mon bénéfice de tout mon travail, Eh oui. La folie de la convoitise est opposition à la pensée de Dieu. Vous voyez bien ici, hein, c'est comme dans Jean, le premier épître de Jean, chapitre 4, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, aimer le monde, c'est inimitié contre Dieu. Eh bien, j'avais un grand-père ici, et alors en encore aussi, la 7e année, chaque champ, la 7e année, était laissé en jachère. Et il mettait une plante dedans, le fume-terre officinal, qu'on trouve là-bas, quand on travaille en été, on le retrouve, il pousse toujours, il a été semé, et il n'y a que là, dans les champs de la famille. Cette terre, le fume-terre officinal, c'est une plante qui enrichit le sol d'elle-même. Il fallait la semer. Chaque terre passait la 7e année au repos. Est-ce que mon grand-père n'a pas pu refaire sa maison malgré que les Allemands l'avaient brûlée? Est-ce qu'il n'a pas pu refaire une annexe à gauche, à droite? Est-ce qu'il n'a pas pu faire le hangar après? Est-ce qu'il n'a pas pu nourrir sa famille? Mais il n'a pas nourri la banque. Ce que vous ne donnez pas à Dieu, vous le donnerez à la banque. Ce que vous ne donnez pas à Dieu, vous le donnerez au diable. D'une façon comme de l'autre, vous lâcherez un 1/7 de vos biens. Vous lâcherez 1/7 de vos biens. Que vous le vouliez ou non, vous le perdrez. 1/7 de tout ce que vous avez doit appartenir à Dieu. Si vous ne le faites pas, ne vous tracassez pas, vous le perdrez autrement. Lisez tout chapitre 7. Vous verrez bien que toujours, toujours, et quand c'était la 7e année, après, on arrive au chiffre 49, cette fois 7, 49, 49e année, la 50e année, on arrête encore. Il y avait 2 années consécutives. En plus, ce qu'on faisait, c'est que celui, parce que tout le monde n'a pas les mêmes dons, quelqu'un qui avait fait les mauvaises sculptures, des mauvaises, ou de l'artisanat qui ne savait pas tourner, après il vendait ses services à l'autre. Il n'avait plus rien, même pas sa maison, il l'avait vendu et tout. Il vivait dans une, peut-être dans cette maison-là qui appartenait à l'autre. Eh bien, la 7e année, celui qui avait racheté devait lui rendre. Tous les 7 ans, on refaisait justice sociale. On refaisait justice sociale. Parce que tout le monde n'est pas aussi malin l'un que l'autre, tout le monde n'est pas aussi adroit, et puis il y a des circonstances qui amènent à l'échec, qui ne sont pas une question d'intelligence. Tous les 7 ans, on donnait le droit à la personne de retourner dans son bien. Cela est disparu en terre d'Israël avec la disparition avec Titus. C'est disparu. Et à partir de Titus, on est rentré avec la foi juive et la foi chrétienne dans l'esprit capitaliste de l'Empire romain. L'Empire romain s'était sucé les gens jusqu'au bout, rendre tout le monde esclave. La doctrine de Dieu dans Israël permettait une justice. La doctrine du diable dans l'Empire romain s'est installée. Et il y a encore maintenant. Hein. Jusqu'au bout qu'on va. Lisez, méditez ce chapitre 25. Et si vous voulez vous instruire encore un peu plus, il y a des livres sur la civilisation en Irak, en Syrie, à l'époque où les civilisations anciennes qui précèdent Israël, elles faisaient ça aussi. On retrouve dans les tablettes, des bibliothèques, des tablettes de terre d'argile ou des pierres gravées, cette justice sociale qui était de rééquilibrer la société pour qu'elle ne se dérègle pas, pour qu'il n'y ait pas des bandits qui attaquent les autres, des gens qui aillent voler dans les maisons des autres la nuit et qui tuent. Tous les 7 ans, on vendait. C'était une régulation sociale. Et la dérégulation sociale de la terre vient de ce que l'objectif, s'enrichir. Tant pis pour le faible, tant pis pour celui qui a perdu. Et de là, qu'est-ce que ça donnait ? Le communisme. Abattons les riches, prenons leur tout, devenons les chefs. Et maintenant, une génération de jeunes de 20-25 ans qui dit « c'est plus la peine de se battre, c'est plus la peine. Moi je fais mon jackpot, mes trucs internet, mes jeux avec mes copains. Je n'attends plus rien de ce monde, il est foutu. » C'est même pas la peine de faire un couple, une famille, d'avoir des gosses. Il n'y a plus rien à espérer. Pourquoi qu'il n'y a rien à espérer ? Parce que la dérégulation du monde s'est installée. Et ils ne sont pas aveugles. Ils passent en dessous du rouleau compresseur de ce monde dérégulé, qui ne veut plus de justice. La désespérance de la grande jeunesse vient de la des injustices du monde. La mise à l'écart de la justice divine. Je vous lis dans Lévitique 25, un verset ou deux, pour vous faire comprendre que l'Esprit de Dieu parlait à travers ce texte de l'Ancien Testament et qu'il devrait encore parler aujourd'hui. Lévitique 25, verset 35. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, verset 35, tu le soutiendras. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Alors, toute cette théorie de bandits politiques qui ne veulent plus d'immigration, tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Donc la banque devrait prêter sans intérêt. Et usure, ça veut dire quoi ? Mais les amis, il y a à peine une semaine, une jeune femme de 50 ans est morte. Elle a fait partie d'un groupe que j'organisais pendant des années. Elle était brave. Un peu folle avec les garçons, elle a fait des bêtises, elle a mal choisi son gars. Ça tournait mal pour elle. Elle c'était une brave fille. Elle aurait pu bien réussir sa vie si elle avait trouvé quelqu'un de posé, de réfléchi, qui aimait plus Dieu que ses bêtises. Je n'en veux pas à ce garçon, à ce monsieur qui vit encore. Je n'en veux pas. Mais franchement, si le choix s'était posé, et dans tous les jeunes que j'ai connus, dans les mouvements de jeunesse, beaucoup de jeunes ont fait des mauvais choix pour le conjoint. Catastrophe pour la suite. Pif, paf, boum, dans un coin, et puis on est lié par la sexualité, et puis pif, paf, boum, on croit que c'est le prince élu, la charmante princesse, et après, on est embarqué dans une folle aventure qui se termine mal. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? C'est que elle avait bien soigné sa maison, elle rangeait tout. Elle était contente de me recevoir. Lui, il avait l'air content aussi, mais tout en surface. À un moment donné, oh, on va acheter une maison, et on va quitter la location, c'est quand même mieux d'avoir une maison en soi. Ils partent à quelques kilomètres de là, ils achètent une maison. Ils achètent la maison, donc ils ont un emprunt sur le dos. L'avant était bien. À partir de ce moment-là, l'emprunt, il faut rendre tous les mois. Mais, comme on est jeune et qu'on veut sortir, en plus de l'auto, on veut une moto. En plus de la moto, on veut de temps en temps s'arrêter au restaurant ou au café avec les autres. Puis recevoir les copains. Mais on ne les reçoit pas avec un verre d'eau, on les reçoit avec des casiers. Et puis après quoi ? Ah, quand il y a un enfant, on veut les meilleurs jouets, les meilleures poussettes, tout ce qui est à la mode. Et puis, il y a des disputes, parce qu'à la fin du mois, on n'en sort plus. Puis il y en a qui dit, oh, toi, t'as acheté ça. Eh bien, moi, j'ai le droit d'aller acheter ça aussi. Donc, ils allaient chacun, dans un esprit de colère, acheter quelque chose. Si bien qu'il y avait des dettes, et qu'à un moment donné, ils ne payaient plus la maison, ils ne payaient plus rien à la banque, et tous les petits emprunts. Quand on reçoit des feuilles dans la boîte aux lettres ou sur Internet, on voit qu'il y a des prêteurs d'argent. Ah oui, en 48 heures, vous pouvez avoir. Ils se sont fait avoir. Ils ont fait le gros prêt de la maison, plus des petits prêts. Et pratiquement, un jour, pour les aider, avec le papa, on a repris tous les comptes. On a passé quelques heures, et on a regardé ce qu'ils payaient réellement. Sur tout ce qu'ils avaient eu comme argent de ces sociétés de prêts, ils étaient retournés à une banque, ils avaient refait un gros prêt pour payer tout le reste. Donc ils n'avaient plus qu'un prêt, si vous voulez. On avait calculé qu'ils étaient à 66% d'intérêt de l'argent reçu. Or, la loi interdit l'usure. Et pourtant, c'est courant. Ça veut dire que c'est foutu. On a vendu la maison, ils ont divorcé. L'usure, c'est l'assassinat de la population. L'usure existe. L'usure existe, elle est pratiquée tout le temps. C'est une iniquité que Dieu ne veut pas. Il y a des gens en cravate qui pratiquent l'usure et qui enfoncent des couples, des jeunes couples, dans la misère, qui les amènent au divorce, qui amènent des malheurs. Ils ne sont pas en prison, ceux-là. Ils devraient y être pourtant pour moi. Mais ils iront en enfer. Verset 36. Lévitique, chapitre 25, verset 36. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Donc l'intérêt, ça serait 3-4%. L'usure, vous voyez, 66%. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent intérêt. Tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Donc, ah, je vais te prêter des carottes. Hein, je vais te prêter mon jardin. Mais attention, hein. Tu me dois ci, tu me dois ça, etc. Hein. À l'extrême. Verset 39. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, vous imaginez? Eh bien, c'est réel. Sur la terre, c'est réel. Qu'il se vende à toi, tu ne m'imposeras point le travail d'un esclave. Je n'ai plus de sous. Qu'est-ce que je fais? Je mets une annonce dans le journal. J'ai 28 ans. Je vis avec mon copain. On n'a plus de sous. En accord avec lui, je mets une annonce dans le journal. Mon copain ne sera pas là. Tel jour, je reçois. Je reçois un homme le matin, un homme le soir, et j'ai mes sous. Et puis, je subis des sévices sexuels, j'ai l'argent, hein, on a payé les factures. Je deviens folle, je vais en psychiatrie. Moi, dans mon ministère, je rencontre des gens comme ça qui osent m'avouer, j'ai fait ça. Je ne savais plus me regarder dans la glace. Je ne savais plus. Je me dégoûtais moi-même. Je ne pensais jamais en être arrivé là. Et ça, quand même, on s'est séparés après. Et des hommes. Il y a des hommes qui font ça aussi. Parce qu'il y a des homosexuels qui n'attendent que des hommes souffrent. Alors, c'est pas prêter le corps à l'usure, ça? Dans les deux sens du mot. Hein. Je n'ai jamais cru, au départ, quand j'étais plus jeune, que tout ce qui était dans la Bible était vrai. Au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est tout à fait ça. Je rentrais, j'avais envie de vomir. Je vais vous dire, il fallait que je prie pour que ça parte, que le Seigneur me donne la paix, et aller dormir. Boum, je dormais. Je pouvais recommencer ma journée le lendemain. Je n'aurais pas été dormir. Ce monde infernal, avec tous ces mensonges et ces saletés, m'aurait déjà tué. Je ne vivrais plus. Si ton frère, verset 39, devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, un ouvrier, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Donc, 7 ans après, boum. Retour à la liberté. Verset 43, tu ne domineras point sur lui avec dureté. Tu craindras ton Dieu. Les amis, lisez ce chapitre 25, ça vaut la peine. Et il y en a des tas d'autres hein, dans les Lévitiques. Ce que je veux dire, c'est que dans la nature, Dieu a voulu un ordre parfait. On en est loin. Ce désordre est dû aux hommes, pas à Dieu. Jérémie 12, 4. Jérémie 12, 4. Pas à Dieu. On ne peut pas l'imputer à Dieu. Quand Karl Marx a dit que la religion était l'opium du peuple, je veux bien l'ordre. La religion qui soutenait les riches, la religion des prêtres qui étaient menteurs, mais pas quand même Dieu. Quand Karl Marx a dit ça, tout le monde dans le communisme a cru que c'était Dieu. Donc, quelqu'un qui croyait en Dieu, goulac. Mais Dieu n'est pas fautif de ça, c'est le péché de l'homme qui est fautif. Et Dieu n'a pas invité l'homme au péché, c'est Satan. Alors, le marxisme, c'est tromper d'ennemi. Ce n'est ni Dieu, ni l'homme, c'est le péché. Et c'est Satan. On n'avait pas le droit de faire des révolutions armées et d'assassiner des gens en croyant que ça irait mieux après. Jérémie 12,4. Oui, j'arrête. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? Vous voyez, sous la malédiction, hein, plus rien ne va. À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Car les habitants disent, il ne verra pas notre fin. Donc, on se moque de Dieu. Il ne verra pas notre fin. C'est pas lui. Il n'y a rien à la mort. Il n'est pas là. Les bêtes et les oiseaux périssent. Donc la nature est impliquée dans l'obéissance de l'homme, dans ce véritable adoration à Dieu, et comme elle est impliquée dans l'iniquité et dans les désobéissances de l'homme, la nature subit les conséquences du péché et de la grâce. Nous sommes responsables spirituellement de l'avenir de la nature. Quand je suis dans les champs et que je prie, je fais du bien à la nature, par le Seigneur, et aux hommes. Quand je suis dans mon lit, dans ma chambre, et que je prie, je fais du bien à la nature et aux hommes. Si j'aime suivre mes convoitises et entretenir des mensonges, conscients ou inconscients, je fais du mal à moi-même, aux hommes et à la nature. Et j'offense Dieu. Tout est un, mes amis, tout est un. Nous continuerons sur le thème de la nature dimanche prochain et nous rendrons gloire à Dieu un peu plus, je pense, en se rendant compte, tout compte fait, mon but c'est que nous soyons responsables de notre âme. Notre âme, c'est quelque chose que Dieu nous a donné qui est unique, notre âme. Qui veut prier ?